Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Moi, je suis Lisa Azuelos, je suis cinéaste, auteure et réalisatrice de films comme Thie est belle, ou LOL, ou Dalida, ou Mon bébé, ou, bon, voilà.
Moi, c'est Carmen, j'ai 30 ans, je travaille dans le cinéma. Et je suis la fille de cette superbe femme qui est ma maman.
Et Carmen a un nom qui est Alessandrin. J'ai compris quand j'étais aux États-Unis que j'avais un problème d'origine. Parce qu'aux États-Unis, on ne dit pas où est-ce que tu es né, on dit où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as été élevé. Where are you born and raised? Et born, j'arrivais à répondre, je suis née à Neuilly en 1965, bon. Et raised, je ne savais pas quoi dire, en fait. Et en fait, voilà, moi, mon père s'appelle Judas, ma mère s'appelle Marie. On sent tout de suite qu'il y a pu y avoir un problème d'origine, à l'origine. Mon père est juif marocain et ma mère est catholique, et, enfin, était catholique et de Bordeaux. Et du coup, j'ai toujours été, d'abord, de 0 à 8 ans, j'ai pas été élevée ni avec mon père, ni avec ma mère. Donc déjà, ça fait un gros trou d'origine. Donc après, aller me définir dans mon origine, ça a été toujours un peu compliqué. Après, de 8 à 12, j'étais avec ma mère. Je m'appelais Douménac, c'était son nom, même à l'école et tout ça. Enfin, je devais toujours changer de nom. Et donc, j'ai été élevée, j'allais à la messe tous les dimanches, j'étais catholique, j'ai fait ma première communion. Voilà, j'étais dans la bourgeoisie de Neuilly, etc. Et puis, à 12 ans, j'ai décidé d'aller vivre chez mon père. Et je suis arrivée avec lui au Maroc. Et là, j'ai découvert mes origines marocaines. Et alors, j'étais dans un univers où j'avais souvent assez faim, bizarrement, dans mon enfance. Il n'y avait pas grand-chose à manger dans les frigos, il faisait froid, il n'y avait pas beaucoup de chauffage. Enfin, j'ai cette espèce d'image un peu bizarre. Là, au Maroc, il faisait chaud, les gens me pinçaient les joues, ils disaient « Alors, c'est toi, la fille de Judas, machin, etc. » Et tout à coup, je me suis dit « Tiens, c'est une origine. C'est original aussi, tu vois, parce que à 12 ans, tu te découvres une origine que tu connais pas de 0 à 12 quand même. » Donc, je l'ai pris pleine balle. J'ai adoré le Maroc et tous ses excès. C'est vrai qu'à l'époque où moi j'ai rencontré le Maroc, c'était la même année que Saturday Night Fever. Donc pour moi, le Maroc, il est au disco. Donc toute ma vie, j'ai adoré et le Maroc et le disco. Et c'est surtout lié à la bar mitzvah de quelqu'un qui est resté un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Mais du coup, j'ai découvert voilà, les Juifs et les Arabes ensemble, à Casablanca, la bouffe à profusion. On était forcément la fille de quelqu'un. Ah, c'est toi la fille de machin. Enfin, je pense que ça vient de l'arabe. Quand on dit Ben, bon, moi, ma grand-mère, c'est une Ben Amou. C'est la fille de Amou. Enfin, voilà, le Ben, ça veut dire fils ou fille de. Je crois que pour les Marocains, tu peux pas te définir autrement qu'en étant le fils ou la fille de quelqu'un. Et moi, de 0 à 8 ans, j'étais la fille de personne. Et puis, à 8 ans, j'étais la fille de ma mère. Et puis, à 12 ans, j'étais la fille de mon père. Donc, j'ai plusieurs origines. Voilà, c'était un peu long, mais c'était un peu compliqué au départ aussi. C'est pour ça.
Alors, moi, je suis française, au final. Mes deux parents sont très français. Mais je me suis pas rarement sentie française, mais je me suis sentie de plein d'endroits différents, en fait. J'ai été baignée dans ce monde marocain du côté de ma mère, la nourriture à profusion, autant la famille que les nounous marocaines qui me ramenaient aussi peut-être plus du côté arabe que juif, mais toujours ce truc de vivre ensemble en fait entre ces deux cultures. Pour moi, la religion, ça a toujours été quelque chose de très abstrait parce que tout le monde en avait une différente autour de moi et moi, j'en ai jamais eu aucune. Enfin, mes parents m'ont jamais... Donc, il y a un espèce de truc où c'est un peu pareil, on est de nulle part, mais de partout. Alors qu'en vrai, je suis ce qu'il y a de plus français, ce qu'il y a de plus parisienne. Mais voilà, et du côté de mon père, j'ai le côté France, je le sens méditerranéen aussi, j'ai un nom italien, tout le monde me demande en permanence si je suis espagnole. Pour moi, être française, c'est peut-être ce que je ressens le moins en moi, bizarrement.
Moi, j'ai jamais vécu au Maroc. En revanche, j'y allais énormément, quasiment tous les étés, pendant longtemps. J'y retourne au moins 2-3 fois par an. Mon père y habite la plupart du temps. Donc, le Maroc, c'est vraiment, c'est une terre où souvent, d'ailleurs, ça m'énerve de me sentir à ce point-là marocaine, parce qu'il y a plein de trucs qui m'énervent au Maroc. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir une partie... Je me dis, il y a vraiment une partie de moi qui appartient au Maroc ou le Maroc appartient à une partie de moi. Je ne sais pas dans quel sens ça se passe. Mais c'est vrai que ça ne me fait pas le même effet que quand je vais dans n'importe quel autre pays. Je ne me suis jamais sentie touriste au Maroc. Alors, les origines des origines des origines. Moi, je suis remontée qu'à mon arrière-grand-mère, dont je porte le prénom Betsabé. Mon père m'a raconté que quand je suis passée devant le cimetière où elle est enterrée ici, à Versailles, au cimetière juif de Versailles, j'avais 2 ans et au moment où on est passé devant le cimetière, j'ai dit « Papa, pourquoi je m'appelle Betsabé ?» Je pense que cette femme dont je porte le prénom m'habite très profondément. L'histoire, c'est qu'a priori, donc, c'était une juive qui habitait à Fès. Et a priori, il y a eu un massacre et il y a eu des viols collectifs à Fès, dont elle aurait fait partie. Et donc, l'histoire que je traîne un peu dans ma famille, c'est que cette femme-là, elle a été violée et après, elle a été répudiée, envoyée à Tlemcen, en Algérie, dans une autre partie de la famille. Et c'est comme ça que ma grand-mère a rencontré le fils de cette femme et a fait couple et du coup, ils ont eu mon père. Donc, j'ai aussi des origines algériennes. Du côté de ma grand-mère, la mère de mon père. Et voilà, après, il semblerait qu'en fait, il n'y ait pas eu ce viol. Je l'ai appris il y a 15 ans, parce que j'ai été beaucoup recherchée. Les parents de ma grand-mère habitaient donc, je crois, en Algérie, à Tlemcen. Et le papa de ma grand-mère a tué sa femme par jalousie. Donc, je pense que je suis baignée entre le viol de l'une, le meurtre de l'autre, etc. Mon féminisme, c'est un féminisme qui vient d'abord des meurtres de la plupart des femmes de ma famille, ou en tout cas des meurtres ou symboliques par le viol, ou réels par le coup de poignard. Mais en tout cas, il y a une énorme violence liée au fait d'être une femme dans ces régions-là, à ce moment-là. Et je sens que c'est une colère que j'avais en moi, qui peut se réveiller très vite, on va dire, si on m'insulte ou des choses comme ça. C'est vrai que je fais un gros travail pour essayer de pas laisser rentrer la colère. Mais c'est là, quoi. C'est dans mon sang, coule le sang de femmes qui ont été assassinées ou violées par des hommes dans ces pays-là. Mon père, il est né à Fès. Ensuite, ils sont tous allés vivre à Marrakech. Il a été à l'école primaire à Marrakech. Et puis, ma grand-mère était assez moderne, je crois. Elle a demandé le divorce. Ça s'est pas bien passé avec le papa de mon papa, qui est mort très jeune. Et elle a demandé le divorce et elle s'est remariée. Et mon père est parti à 12 ans vivre seul à Casablanca. Donc lui aussi, il a été assez exilé de sa famille très tôt. Il s'est mis à travailler. Après, il s'est fait récupérer parce qu'il a fait croire qu'il allait vivre chez son père, alors que à l'époque, il n'y a pas de portable, donc on peut faire croire ce qu'on veut, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Il faisait croire qu'il avait 16 ans, qu'il pouvait travailler, il n'en avait que 12, mais il était grand. Donc,
marrant, ça me fait penser à Ilan, mon frère.
Ouais, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire ce besoin d'indépendance, de ne pas dépendre de sa mère, puis de vouloir échapper aussi peut-être à ce destin. Il était très pauvre. Il sentait qu'il avait peut-être un autre destin. Et voilà, il s'est mis à travailler dans la banque. Il repassait des billets de banque à un moment. Enfin, voilà, le genre de boulot qu'on donne à des gosses, où il remplace, où il écrivait des chèques. Enfin, bon, voilà, mais il a toujours eu, en fait, une espèce d'étoile qui a fait qu'il a toujours rencontré les bonnes personnes et tout ça. Puis finalement, il a fait des hautes études. Il a été sauvé par un professeur dont j'ai plus le nom pendant la guerre, parce que le Maroc était quand même un protectorat français, mais était complètement sous le régime de Vichy. Et en fait, tous les enfants juifs ont été répudiés de l'école, sauf mon père et sa sœur, qui ont été sauvés par un professeur qui a dit « Vous aussi, vous avez le droit de rester là et moi, je vous prends sous mon aile. » Et en fait, il a eu une telle reconnaissance pour ce professeur que c'est comme ça qu'il est devenu un peu un érudit par rapport aux autres garçons qui traînaient dans les rues, avec qui traînaient voilà, les pauvres du Maroc bon, en 1942, 45, ça devait pas être génial, mais en tout cas toute la période Vichy. Et du coup il me racontait souvent, il y a une histoire que j'adore, il était avec un ami dans l'école française, avec les Français, donc ils apprenaient le maréchal Lyautey, des collines, des verts pâturages. Alors pour eux, ça signifiait, mais vraiment, mais que dalle, quoi. C'est des gens qui étaient dans les cailloux et le sable, et on leur faisait des comptines avec des moutons, des pâturages, enfin, qui avaient rien à voir avec leur réalité. Et il m'a dit qu'il avait un copain qui lui avait dit, quand les avions étaient passés, il a dit, les avions sont passés au-dessus de nos têtes, ils ont tous levé les yeux au ciel, et nous aussi. Et nous aussi, c'était les Juifs, quoi. Et nous aussi, ça m'est toujours resté dans la tête, parce que il y avait une vraie différence entre les Arabes, les Juifs, les Français, et en même temps, tout le monde vivait ensemble. Il y avait pas de cas où quelqu'un n'a pas à manger. C'est pas parce que t'es juif ou que t'es arabe que tu vas pas donner à la personne qui est ton voisin. Il y a une autre histoire où voilà, il y avait un mariage et les deux étaient des juifs et des arabes, et ils étaient très très fâchés, mais ils ont reçu une invitation et la personne dit, mais je croyais que t'étais fâché. Il dit, bah oui, mais c'est un mariage, on va pas quand même pas les inviter. Donc c'est de cet ordre-là quand même ce qui se passe au Maroc à cette époque-là. C'est vraiment c'est beaucoup pour les apparences, c'est vrai. Mais c'est aussi, il y a une fraternité où personne meurt de faim, même encore aujourd'hui, quoi. C'est, il y a pas de cas où il y a pas une assiette pour la personne qui veut venir et qui va s'attabler, quoi. Donc voilà, c'est un peu toutes les histoires. Mon père m'a toujours raconté beaucoup 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 d'histoires. D'ailleurs, c'était chiant puisque on n'avait pas le droit de parler à table, il fallait écouter ces histoires. C'est vrai que maintenant je suis assez contente parce que du coup j'ai des images dans la tête, mais bon, il y avait aussi une non-prise de parole.
Oui, c'est ça, parce que c'était des histoires, mais qui racontaient un monde, un univers, mais qui racontaient pas réellement là d'où ils venaient. C'était quelque chose de toujours un peu comique, toujours un peu... Et moi, justement, malgré toutes les fois où... Il dérive, à chaque fois qu'il parle de lui, il dérive sur quelque chose d'autre, une petite histoire, quelque chose qui n'a pas d'intérêt, en fait... Et il nous raconte pas ce qu'il y a d'intéressant, son rapport à son père, à sa mère, à ses origines, l'Algérie, le Maroc, tout ça. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai vachement de mal à l'imprégner dans ma tête. Et j'aime bien t'entendre parler de tout ça, parce que quand lui me le raconte, je l'entends pas du tout de la même manière, parce qu'il y met pas la même importance, en fait. Il raconte pas la même chose. Et pourtant, il nous raconte toutes ces histoires du Maroc. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours ressenti, alors que pourtant, j'y allais beaucoup moins au Maroc, j'ai peu de souvenirs, enfin on y va souvent, mais c'est pour des vacances. Et quand j'étais petite, je ressentais pas du tout ce lien avec le Maroc. Par contre, je ressentais ce lien à une autre culture, mais que je connaissais pas, et auquel on m'invitait pas forcément à aller non plus. À chaque fois qu'on va au Maroc, chez lui, il veut jamais nous faire voir des choses, nous faire visiter des endroits importants. Je suis jamais allée à Fès, là où il a vécu. À chaque fois, il me dit que c'est nul, qu'il y a rien à faire.
Ah bon?
Alors, ouais, Il y a toujours moi, quand je lui parle, en tout cas, il y a une certaine forme de désintérêt, comme si ça ne me concernait pas. Alors que plus je grandis, plus je me rends compte que malgré tout, ça fait partie de comment j'ai grandi, avec toutes ces lacunes et ce manque de visibilité sur ce monde, en fait. Et c'est drôle, parce que j'arrive beaucoup plus à visualiser son histoire quand toi, tu la racontes, que quand lui, il en parle, en fait.
Mais moi, je lui ai tiré les vers du nez. Hein. Non, mais à chaque fois, il me disait, mais non, mais pourquoi tu veux que je parle de ça? Je disais, mais parce que c'est important. Et quand on a ressorti, c'était il y a une vingtaine d'années, l'histoire du meurtre des parents de sa mère, il m'a dit, mais arrêtez d'aller remuer la merde. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment les non-dits patriarcaux et nord-africains, les deux cumulés, c'est atroce, quoi. C'est-à-dire que pour eux, ça roule et voilà, et on se tait, quoi. C'est vraiment... pour aller déterrer des espèces d'histoires comme ça, des secrets de famille, c'est la croix et la bannière, quoi. C'est vraiment... je sais même pas si ça se dit encore, la croix et la bannière. Il y a beaucoup de textes dans la Torah sur la pudeur. Il y en a beaucoup aussi dans le Coran sur la pudeur. Et moi, je suis pas du tout copine avec la pudeur. Je déteste ça. Je déteste ça parce qu'en fait, c'est un mot pour dire on vous racontera pas la vérité. Et être pudique... pour une femme, c'est obligatoire dans ces pays-là. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de montrer. Ça va du corps aux émotions, aux souffrances, etc., etc. Donc, sous le mot pudeur, qui a l'air beau, qui a l'air poétique, éthéré, romantique, etc., en fait, c'est ce que j'appelle, moi, mettre la poussière sous le tapis. Sous prétexte de cette pudeur, on a mis un voile, je parle pas, même pas du voile qu'on met sur la tête des femmes, c'est un voile sur toute une vérité, toute une part du féminin. C'est un rideau, quoi, c'est pas un voile, en fait, c'est un rideau, c'est un sac en plastique qui fait qu'on ne peut pas exprimer qui on est vraiment. Et moi, je trouve que la pudeur n'est pas une qualité. La qualité, c'est la vulnérabilité, mais c'est pas la pudeur.
Moi, j'ai ressenti, comme je suis beaucoup moins proche et qu'au final, cette histoire m'a moins questionnée, je pense, j'ai toujours senti qu'il y avait zéro pudeur. Il a jamais caché ou amoindri ses origines, là d'où il venait. Il a toujours parlé arabe à la maison. Il nous a raconté ses histoires de là d'où il venait en les enjolivantes. Il y avait plus, en fait, cette fracture... en tout cas, me concernant sur ses origines et le fait qu'il n'avait pas forcément envie de me les faire partager, venait plus sur un truc de « il ne voulait pas qu'il y ait une fracture ». Moi, j'ai toujours ressenti comme ça, où en fait, malgré ses origines, il est quand même français. Il a toujours été un peu flou sur la question de me répondre quand, bêtement petite, je disais « mais t'es marocain ou t'es français ?» Parce que c'était très flou pour moi, je ne comprenais pas, parce qu'il était autant les deux, en fait. Je pense qu'il s'amusait un peu à me perdre là-dedans et à ne pas me donner vraiment de réponse, parce que... ça existe. Enfin, je pense que lui aussi, par rapport à l'accomplissement de sa vie et là où il en est arrivé, sans renier ses origines, il voulait pas qu'elle soit sur une étiquette, je pense.
Mais après, rappelle-toi quand vous étiez adolescente, être au court de cette jupe.
Oui, mais ça arrive. Mamie, la mère de mon père, me disait la même chose.
Ouais, c'est vrai. C'est une génération.
Oui, c'est plus en un fait, problème c'est une pudeur de. Que...
Mais c'est une génération aussi pour qui la pudeur, c'était une vertu, quoi. On a toujours parlé de la pudeur comme d'une grande vertu dans les romans du 19e, du 20e, etc. Enfin, même avant, la pudeur, c'est une vertu. Mais le problème, c'est que c'est surtout sur les sentiments. C'est-à-dire que si tu l'interroges sur ce qu'il ressent, est-ce que t'es triste, est-ce que... Puis attends, mais je veux pas parler de ça, je veux pas parler
de ça. C'est ça, je pense qu'il a plus une pudeur sur son histoire que sur ses origines, vraiment. Parce que moi, je les ai... elles n'ont jamais été amoindries ou cachées, je trouve, ces origines. Ça a toujours fait partie de notre univers.
D'où on vient ? Est-ce qu'on vient d'un pays qui est une terre ? Ou est-ce qu'on vient d'un terre russe, qui n'est pas une terre russe ? voilà, l'origine d'un être humain, est-ce que c'est le sol où il est né ? Ou est-ce que c'est l'utérus d'où il vient ? Et c'est vrai que pour nous, c'est marrant, parce qu'on est beaucoup de femmes dans la famille. Et notre exil, il vient de l'homme. Donc, en même temps, c'est toute la partie masculine qui est à la fois blessé dans son origine d'exil, et en même temps, c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup raccroché.
Oui,
parce que c'est vrai que moi, j'avais une maman qui ne faisait pas vraiment des dîners de famille et des trucs comme ça. Donc, tout ce qui a rapport à notre famille, c'est jouer autour des fêtes juives, des Shabbats, des Pessahs, des Kippours, des machins. Enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs.
Puis de cette attitude patriarcale.
Et de cette attitude patriarcale, etc. Donc, en fait, nous, on est filles de juifs marocains, quoi. Et ça, voilà, à table, on l'a subi. Enfin, tout ça, c'est aussi... donc, pour Carmen, pour mes enfants, c'était moins violent parce que moi, j'étais là pour protéger ça. Mais moi, en ligne directe avec cette famille-là, c'était super violent, quoi. Je ne me sens pas française. Hein. Je me sens... bizarrement, dès que je suis à la campagne, je me sens française. En fait, je me sens pas parisienne, voilà. Parce que j'ai été élevée à la campagne quand j'étais petite, dans la Sarthe, numéro 72, sur la carte de France. Avec Le Mans, c'est chef-lieu, quoi, je sais plus comment on dit. Bon, bref. Et donc, dès que je suis à la campagne, je me sens française. Dès que je suis à Paris, je veux fuir. Je me sens pas du tout urbaine en France. Autant je me sens terroir, autant je me sens pas du tout urbaine. Parce que je suis arrivée en CM1, les codes étaient déjà joués. Enfin, je me suis toujours sentie j'étais un peu la plouque. Je savais pas ce que c'était que d'être une fille intégrée à Paris. Et CM1, c'est déjà grand, quoi, pour ça. Après, mes parents étaient divorcés. Aucun parent était divorcé à l'époque. Mon père était juif, il y avait très peu de juifs, donc j'avais que des hontes, quoi.
Puis t'étais dans un milieu de la campagne, assez public, mondain. Ouais. Et ta mère et ton père, les deux avaient un statut social qui te mettait dans le bain directement.
Mais mon père, je le connaissais pas avant 12 ans. Hein. Ma mère voulait pas trop qu'on le voie. Moi, je le détestais. Mais par contre, c'était avec ma grand-mère, en fait. Quand les rares fois, enfin les week-ends sur deux où il a le droit de nous prendre à partir de 8 ans. En fait, il savait pas quoi foutre avec nous. Un homme en 1970 avec deux gosses, il sait pas quoi en foutre. Hein. Déjà,
un homme d'affaires en plus.
Un homme d'affaires, et puis surtout un ce qu'on appelle un Playboy. C'est super intéressant de regarder sur Amazon l'histoire de Hugh Hefner, qui est l'histoire du magazine Playboy. Mmh. Et on voit qu'en fait, ce mot est sorti jusque dans les années 50-60. Un homme qui était pas marié avec une femme et des enfants, c'était la honte, quoi. Il avait pas de statut social. Et puis, tout à coup, il y a eu ce statut du playboy, qui est le mec qui peut jouer donc à être un garçon, pas un homme, c'est pas playman, c'est playboy, qui peut avoir plein de playgirls et playmates et tout ce qu'on veut. Donc, mon père était un playboy et un homme d'affaires, donc ça sait pas quoi foutre avec des gosses, quoi. Donc, en fait, là, moi, j'étais placée chez ma grand-mère tous les week-ends à la Selle Saint-Cloud. Et j'adorais ça parce qu'elle, pour le coup, elle avait qu'un souci, c'était nous faire manger. Et comme j'avais pas beaucoup à manger dans ma vraie maison, donc elle nous faisait à manger tout le temps. Elle s'occupait de nous, enfin c'était une mamie, mais elle était illettrée. Donc j'avais une mamie qui parlait l'arabe mieux que le français. Enfin, elle parlait bien le français, mais on sentait qu'elle parlait mieux l'arabe, quoi. Elle cuisinait comme une arabe. Tout était arabe dans mon enfance, quoi. Il y avait pour moi le symbole de ça dans une cuisine, c'est d'avoir tous ces torchons sur des grandes sur des grandes casseroles, quoi, pour tu vois, c'est toujours un peu un truc de bled, quoi, tu vois. Et elle avait une voisine en face qui s'appelait Madame Gelner, qui était une juive russe et qui elle ne savait pas même pas se faire cuire un œuf et qui avait des milliers de bouquins chez elle. Et donc et elles étaient très copines. Et c'était marrant de voir comment une femme qui sait à peine parler et pas écrire et pas lire était copine avec une intello qui était sortie du groupe communiste, qui était vraiment une chercheuse scientifique, etc. Et elles étaient sur le même palier. Et nous, on était au milieu de ça, des enfants exilés à la Selle Saint-Cloud. Parce que tu peux pas être exilé entre Paris et la Selle Saint-Cloud, tu vois, c'est un exil aussi, parce que tout à coup, c'est des autres odeurs, de notre nourriture, voilà, une autre manière d'être aimé, pris en compte.
Et du coup, toi, t'avais pas ce questionnement-là quand t'avais 12 ans et plus de « mais d'où vient ma famille ?»
D'où viens-je ? Bah, mon premier film le raconte quand même. C'est-à-dire que mon premier film, c'est un cri pour parler des femmes de cette partie de ma vie qui, comme Thiebel, ça se passe dans le milieu séfarade juif. Donc c'est vraiment... c'était ma manière à moi de rendre hommage à toutes les femmes, surtout que c'était l'époque Vérité Sigement. Et je me disais, mais réduire le côté juif séfarade au sentier et aux blagues, je trouvais ça pas cool, quoi, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait comme Thiebel. C'était un peu mon cri de révolte par rapport à ce film. Et pour dire, mais les gars, s'il n'y a pas les femmes qui vous font à dîner tous les vendredis soirs, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de... Vos vêtements, ils ne sont pas repassés. Vous ne pouvez pas aller frimer. Vous ne pouvez pas être qui vous êtes, en fait. Et moi, je n'aimais pas qu'on oublie ça. Après, aujourd'hui, moi, ma question, c'est... Parce que ce n'est pas que je me sens vieille, mais je pense quand même, en plus, comme j'ai perdu ma mère l'année dernière, c'est... Ma grosse question, c'est où est-ce que je vais me faire enterrer ? Et ça, c'est une question intéressante sur l'origine. Parce que moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas qui est ma terre pour finir mes jours. Je n'ai pas du tout envie de la crémation. Même si on plante un arbre avec ce que je suis devenue ou je sais pas quoi, je sais pas où le planter. Je sais pas où j'appartiens. Je ne sais pas. Donc c'est super parce que j'ai l'impression d'appartenir un peu à partout. Je suis un peu comme Zelig, Woody Allen. Je sais pas si t'as vu le film. Voilà, je m'adapte à toutes les situations partout. Je suis vraiment comme une barbe à papa, quoi. Je prends toutes les formes, comme dirait Bruce Lee, be water. Tu vois, tu prends la forme de là où t'es. Mais en revanche, finir mes jours, je sais pas où. J'ai aucune idée.
Donc comme quoi, finalement, peut-être que l'exil, s'il a été vécu une fois dans les origines qu'on a, il continue de couler dans notre sang et fait qu'on est toute sa vie un peu exilé, un peu dans le vagabondage et l'errance.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait, moi, dans la mesure où je vis très fort un exil, où je suis pas capable de me dire... ici, c'est ma vie, ici, c'est ma famille, ici, c'est... Sauf quand je suis... En fait, pour moi, ma famille, c'est mes enfants, bizarrement. Mais j'ai du mal à remonter à la... au-dessus
ouais,
de ça.
Ouais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que nos origines, c'est pas finalement plus notre histoire que notre terre ?
Ouais.
Et je pense qu'à chaque fois que tu parles de ça, les endroits que t'évoques, c'est là où nous, on a passé des bons moments ensemble et tout. Et... Moi, j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé que... Le cœur avait plus de... Quand je pensais aux enfants adoptés, quand j'étais petite, je me disais, mais au final, le rapport de vouloir retrouver ses parents biologiques m'intriguait, parce que je me disais, mais c'est ceux qui t'ont donné de l'amour, tes parents, le sang, c'est quoi, en fait ? Je sais pas pourquoi, c'était une question qui me... Et j'aime bien en parler avec des gens qui sont à la recherche de leur sang, en fait, pour savoir pourquoi, parce que moi, ça m'intrigue vraiment, parce que les sangs, c'est et dans le cœur et dans l'histoire, et c'est pour ça que même si j'ai jamais connu le Maroc, je me sens en faire partie parce que c'est mon histoire, c'est tous ces dîners, toutes ces odeurs, cette cuisine. Même moi, je suis plus, je préfère la nourriture marocaine à la nourriture française, alors que j'ai passé si peu de temps là-bas, quoi. Mais c'est mes odeurs, c'est mes épices.
Après,
trucs,
c'est vrai que, moi j'ai eu la chance d'avoir une jeune femme qui a débarqué quand ma petite avait 2 mois. Carmen, on fêtait son anniversaire de 7 ans, je crois, c'était.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est la prolongation de notre...
Voilà. Et en fait, c'est vrai que, bon, moi, je ne pouvais pas être une femme qui travaille toute seule dans la famille sans avoir une aide avec moi. Tu ne peux pas élever 3 enfants et pas avoir une aide. Et Sadia, elle est arrivée, elle ne parlait pas un mot de français. Donc au début, c'est moi qui parlais un petit peu l'arabe avec elle. Bon, malheureusement, elle ne m'a pas assez appris. Et on n'a pas assez parlé marocain à la maison parce qu'elle ne voulait absolument pas, elle... Voilà, et elle aussi, elle est exilée. Et en fait, je pense que son exil à elle a autant teinté, en fait, l'histoire de notre famille, qu'un mère et mes enfants que je suis, que celle de ma vraie famille. C'est-à-dire que... J'ai toujours eu un rapport comme de sœur à sœur avec cette femme où tu, parfois on disait c'est moi le père, c'est elle la mère, bon voilà, où c'était, on était 2 mères, où voilà, j'ai l'impression d'avoir élevé mes enfants avec quelqu'un qui est marocain aussi. Donc quelque part j'ai pas tant que ça échappé à Sissi n'a pas échappé à son destin tant que ça, quoi.
Ouais, mais du coup, c'est peut-être aussi sa présence dans notre vie qui nous a amené cette...
Oui,
cette maroquinerie. Beaucoup plus, ouais.
Ce que j'appelle, moi, la maroquinerie.
C'est vrai que... En tout cas, le lien que j'ai avec elle me donne énormément envie de m'intéresser beaucoup plus à cette terre, à cette culture, à ses odeurs, à ses couleurs, que les conversations que j'ai avec mon grand-père. Et c'est vrai qu'elle a ramené dans notre vie, je pense, ce truc qu'en fait on cherchait, qu'on n'arrivait pas à trouver dans notre famille.
Inconsciemment, j'ai été... Enfin, c'est même le total fruit du hasard. Vraiment, on s'est rencontrés de manière complètement hasardeuse. Elle allait chercher du travail. Elle venait de débarquer. Ça faisait même pas une semaine qu'elle était en France. Et en fait, ça a permis de recréer un lien, mais dans la douceur. Parce que tout le contact que j'avais eu, moi, avec le Maroc, c'était un contact de guerre, quoi. Parce que le patriarcat juif marocain, il peut être salement con, quoi. Vraiment, surtout avec les femmes. Moi, c'est un exemple que je prends tout le temps, mais quand on sait le temps que ça prend de faire une chouchouka, c'est-à-dire une salade de poivrons, je voyais mais des pyramides de poivrons. C'est quand je dis des pyramides, on parle de 1m50 de hauteur de poivrons pour faire 3 assiettes pour nourrir 20 personnes. C'est ça, l'histoire. Et quand on sait qu'il faut les faire griller, mettre dans du plastique, suer, enlever la peau, se brûler les mains, etc., et que... Il n'y a pas un merci à table et que ça bouffe la chouchouka en parlant des problèmes politiques et que les femmes n'ont pas le droit de parler alors que c'est elles qui ont mis tout leur amour dans ce repas et que s'il n'y a pas cet amour-là, il n'y a pas de famille, on ne parle pas politique, on ne parle plus de rien, ça n'existe plus, vous êtes atomisés les mecs, s'il n'y a pas eu ces doigts qui se sont brûlés sur les poivrons. Et moi, c'est cette chose-là qui m'a toujours... Mon féminisme, il vient de là, juste de reconnaître que vous êtes votre pays d'origine, c'est l'amour, tu vois, et c'est l'amour qu'on vous porte. Et c'est pour ça aussi que je suis pas toujours contente avec le féminisme contemporain, c'est que les femmes aussi oublient qu'elles viennent de l'amour et qu'elles sont là pour l'amour. Et voilà. Et comment on peut se retrouver dans l'amour ? Ça, c'est notre origine. En fait, tant qu'on n'est pas dans l'amour, on est en exil. Donc, voilà. Ça y est, j'ai dit. Même quand j'étais avec ma mère, j'étais exilée puisqu'elle n'était pas beaucoup là, donc j'étais toujours en famille d'accueil, moi. Et ma famille d'accueil, en fait, c'est Bertrand Blier qui m'a élevée avec sa femme, Catherine, et mon amie qui était la fille de Catherine. Donc j'étais déjà en exil dans une autre famille, même quand j'étais moi. En fait, dès qu'on n'est plus dans sa famille, on est en exil, en fait. Déjà, parfois, on est en exil dans sa propre famille parce qu'on se dit « qu'est-ce que je fous là ?» On voit bien tous les gens qui ont eu du mal à faire leur coming out sur un genre qui n'était pas forcément choisi ou d'épouser quelqu'un qui n'est pas de la bonne religion, tout ça. On se met très vite en exil dans une famille qui peut être un peu jugeante. Mais moi, j'ai été élevée par une autre famille, en fait, qui était cette famille-là pendant des années. Et voilà, Bertrand Blier, pour moi, il faisait le métier de rêve, quoi. Je comprenais que ce métier-là, c'était un métier qui était fait pour moi, que le cinéma, c'était ça que je voulais faire. Et en fait, je pouvais même pas imaginer de faire autre chose. Je pouvais pas imaginer ne pas écrire, ne pas réaliser mes histoires. J'ai jamais... Et ça, c'est pas très juif marocain, quoi. Enfin, ça vient pas de là, hein. C'est sûr. En revanche, il y avait ce truc avec le statut social qui comptait beaucoup. Moi, en fait, j'étais en compète avec les hommes. Je me disais, je vais leur mettre leur race à ces connards, quoi. Vraiment, hein. C'est la rage de tout ça qui m'a donné envie de réussir socialement, mais aussi parce que j'ai fait un an, forcément j'ai suivi un parcours qui était un peu académique. J'ai eu mon bac à 16 ans, donc ils m'ont empêché de faire du cinéma de 16 à 18 ans, donc il a bien fallu que je m'occupe, donc j'ai fait des études de gestion à Dauphine. Après, j'avais que un DESS, un DEUG. Ça doit même plus exister maintenant, ça doit être des vieux mots. Et du coup, on m'a dit, ben là, on faut une maîtrise. Donc, je suis allée jusqu'à la maîtrise. Après, on m'a dit, mon père, il disait, mais tu te rends compte, c'est une super opportunité. Tu peux travailler, tu peux devenir banquière ou je sais pas quoi. Bon, bref. Puis j'ai fait un an à la bourse comme gestionnaire de portefeuille et vraiment ça m'a fait dégueuler ce monde-là. J'ai détesté ce monde-là, quoi. Et j'en ai écrit à mon premier court-métrage et je suis partie. Et puis à partir de là, j'ai commencé à faire ce que j'aimais vraiment dans la vie. Mais j'avais toujours en ligne de mire, un jour, toutes ces espèces de péroreurs, là, je sais même pas comment, ceux qui pérorent, je sais pas comment on les appelle, ceux qui friment, les frimeurs, quoi. Je me disais, bah, je veux qu'ils aient mal de me voir réussir mieux qu'eux. C'était vraiment, c'était pas gentil, hein, comme manière de penser. Mais c'était ma manière à moi d'avoir ma revanche. Je voulais qu'ils souffrent, qu'une femme réussisse mieux qu'eux et s'éclate plus qu'eux, en fait. Et donc, j'ai toujours été en compète avec les hommes.
Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que dans cette culture, c'est important de réussir pour les hommes beaucoup. On s'en fiche souvent de ce que la fille devient et de ce qu'elle fait, de si elle réussit. L'important, c'est qu'elle se marie. Et c'est encore hyper actuel aujourd'hui, moi, je trouve. Enfin, moi, quand je parle avec papy...
Alors, tu te maries quand?
Ouais, il y a un espèce de truc où je trouve que c'est encore très actuel dans leur mentalité. Et c'est vrai que je pense qu'on a envie maintenant que les jeunes filles réussissent et tout, mais la carrière du garçon est toujours plus importante.
De quel Orient nous parle-t-elle?
Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai retournement. C'est que aujourd'hui, je sais que ma terre, l'amour, je l'ai reçu de lui. Il s'est énormément occupé de moi. S'occuper d'un enfant qui arrive en plus 12 ans, c'est pas l'âge où t'es le plus sympa. Pour un homme qui était un playboy, tu vois, marocain, qui allait en boîte de nuit tous les soirs, etc. Ben malgré tout, il m'a accueilli, il n'était pas obligé, il y a plein de papas qui l'auraient pas fait. Il m'a donné beaucoup d'amour, il me faisait beaucoup de câlins, il était hyper généreux. Après, il était barjot comme plein de gens de les Marocains, ils peuvent aussi être un peu fous avec les gens. Je rentrerai pas dans le détail. Mais c'est aujourd'hui, les seules conversations que j'ai avec mon père, c'est « tu peux pas savoir à quel point je t'aime ». C'est ce que je lui dis et c'est ce qu'il me dit. Et c'est vrai que j'ai presque... Et j'aime bien cette notion, et ce sera la nouvelle notion d'ailleurs de mon nouveau féminisme, si je dois y aller, c'est l'utérus des hommes, en fait. Parce que, en fait, les hommes, ils ont un utérus, on dit que c'est la prostate, et c'est pas pour rien qu'ils sont tous malades de leur prostate. C'est vraiment le lieu... où eux aussi, ils donnent naissance à une création, à des créatures. Et il y a quelque chose de super beau dans imaginer que les hommes, ils ont un utérus qui va nous donner de l'amour aussi à nous, leurs enfants, et surtout à nous, les filles, quoi. Parce qu'il y a un vrai lien aussi. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à transformer ce truc de revanche un peu voilà, que j'ai pu avoir avec simplement, je sais que ma terre, c'est l'amour qu'il m'a donné aussi.
J'ai beaucoup moins vécu ça. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu avec une certaine oppression du père, parce que bah, mon père était pas comme ça et que mon grand-père avait pas assez de pouvoir sur moi pour l'être. Mais par contre, je l'ai vu de loin et ça a eu un impact sur moi, sur comment j'ai grandi, sur mon côté un peu rebelle par rapport à tout ça, ou qui est peut-être moins présent parce que moins important, mais il existe en moi. Et au contraire, je trouve que son héritage, c'est un pluralisme de culture, en fait, où à travers ce monde et juif et marocain, c'est quand même quelque chose de très chaleureux, de très vivant, de toujours dans la joie. Les chansons qu'on fait à table pendant les fêtes, les grandes réunions, le fait de toujours devoir être à beaucoup, même si parfois on s'en plaint parce qu'on n'est jamais avec lui. Je sais que j'ai vécu des moments enfants avec des grandes tablées, des trucs qui marquent et qui font chaud au cœur et qui nous laissent une belle image de cette culture, en fait. Et moi, je pense vraiment que c'est une énorme richesse que j'ai dans ma vie que d'avoir cet héritage-là, même si je le touche à peine du bout des doigts déjà parce qu'il me donne envie d'aller vers ça. Et forcément, c'est génial de sentir qu'on a une carte qui nous appartient, qu'on connaît pas et qu'on peut gratter et gratter encore et qu'on aura plein de choses à découvrir. C'est vraiment super quand on connaît tout sur son histoire, sur sa famille à déjà 30 ans, c'est chiant. Là, je suis vraiment très fière d'avoir une culture aussi riche qu'elle vienne autant de mon grand-père que de mon père et de son côté très français, breton, que de Sadia qui vient du Maroc, mais d'un monde complètement différent. Elle est berbère, des montagnes, elle a quelque chose d'extrêmement plus rural. Elle n'a jamais vécu dans cette jet set et cette vie. Elle me parle de l'islam d'une manière tellement pure. Et c'est vraiment... Enfin voilà, j'ai un pluralisme dans ma vie jusqu'à... Enfin, quand je suis née, ma mère était bouddhiste. Mes parents m'ont jamais amenée à choisir de religion. Ça a toujours senti l'encens chez moi, le couscous, les crêpes au beurre. Enfin, j'ai de tout en moi et je trouve vraiment que c'est une richesse incroyable et je changerais ça pour rien au monde.
Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous. Juste là dans son cœur, elle me dit les détails. L'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.